Nombres, chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, « C'est ici le statut de la loi que l'Éternel a commandé en disant, « Parle aux fils d'Israël, et qu'il t'amène une génisse rousse, sans tare, qui n'ait aucun défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Et vous la donnerez à Éléazar, le sacrificateur, et il l'amènera hors du camp, et on l'égorgera devant lui. » Et Éléazar, le sacrificateur, prendra de son sang avec son doigt et fera aspersion de son sang 7 fois, droit devant la tente d'assignation, et on brûlera la génisse devant ses yeux, et on brûlera sa peau et sa chair et son sang avec sa fiente. Et le sacrificateur prendra du bois de cèdre et de l'hysope et de l'écarlate et les jettera au milieu du feu où brûle la génisse. Et le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera sa chair dans l'eau. Et après, il entrera dans le camp. Et le sacrificateur sera impur jusqu'au soir. Et celui qui l'aura brûlé lavera ses vêtements dans l'eau et lavera sa chair dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et un homme pur ramassera la cendre de la génisse et la déposera hors du camp en un lieu pur. Et elle sera gardée pour l'assemblée des fils d'Israël comme eau de séparation. C'est une purification pour le péché. Et celui qui aura ramassé la cendre de la génisse lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera un statut perpétuel pour les fils d'Israël et pour l'étranger qui séjourne au milieu d'eux. Celui qui aura touché un mort, un cadavre d'homme quelconque, sera impur 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour. Et le 7e jour, il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour... alors il ne sera, pas pur le 7e jour. Quiconque aura touché un mort, le cadavre d'un homme qui est mort, et ne se lavera pas, et ne sera pas purifié, a rendu impur le tabernacle de l'Éternel. Et cette âme sera retranchée d'Israël, car l'eau de séparation n'a pas été répandue sur elle. Elle sera impure, son impureté est encore sur elle. C'est ici la loi. Lorsqu'un homme meurt dans une tente, quiconque entre dans la tente et tout ce qui est dans la tente sera impur 7 jours. Et tout vase découvert sur lequel il n'y a pas de couvercle attaché sera impur. Et quiconque touchera dans les champs un homme qui aura été tué par l'épée, ou un homme, ou un mort, ou un ossement d'homme, ou un sépulcre sera impur 7 jours. Et on prendra pour l'homme impur de la poudre de ce qui a été brûlé pour la purification, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Et un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, et en fera aspersion sur la tente, et sur tous les ustensiles, et sur les personnes qui sont là, et sur celui qui aura touché l'ossement, ou l'homme tué, ou le mort, ou le sépulcre. Et l'homme pur fera aspersion sur l'homme impur le 3e jour et le 7e jour, et il purifiera le 7e jour. Et il lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Et l'homme qui sera impur et qui ne sera pas purifié, cette âme-là sera retranchée du milieu de la congrégation, car il a rendu impur le sanctuaire de l'Éternel. L'eau de séparation n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Et ce sera pour eux un statut perpétuel. Et celui qui aura fait aspersion avec l'eau de séparation lavera ses vêtements, et celui qui aura touché l'eau de séparation sera impur jusqu'au soir. Et tout ce que l'homme impur aura touché sera impur, et celui qui l'aura touché sera impur jusqu'au soir.
Frères et sœurs en Christ, chers amis, quel bonheur d'être avec vous ce soir encore une fois. Nous savons que déjà plusieurs années, nous avons devant nous ce livre des Nombres pour en tirer à travers l'histoire de peuple Israël des leçons pratiques pour nous aujourd'hui, sous le thème de la marche, le service et le combat du croyant qui traverse ce monde en route pour la maison du Père. Aussi donc c'est le but ce soir et les soirs qui suivent par l'aide de l'Esprit Saint, pour nous de tirer des leçons pratiques pour notre vie de chaque jour, de ces chapitres qui sont devant nous. Mais pour rafraîchir un petit peu notre mémoire, je fais une petite introduction, un résumé. Dans les 10 premiers chapitres, nous avons la préparation pour le voyage, pour le peuple d'Israël. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Pas simplement pour le peuple d'Israël, mais aussi aujourd'hui pour nous, pour son assemblée. Alors nous voyons donc dans ces 10 chapitres, très vite, chapitre 1er, l'ordre de l'inventaire, de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils étaient. Chapitre 2e, l'ordre dans le campement d'Israël. Leur camp doit être bien organisé, en ordre. Chapitre 3 et 4, l'ordre dans les ministères, les Lévites, les différentes familles. Dans le chapitre 5, il y a donc le commandement de mettre dehors du camp tout ce qui est souillé, tout ce qui est de souillure, l'impureté, et aussi de juger les coupables. Le chapitre 6e, donc, qui suit, nous avons le résultat de cette purification, de cette séparation de ce qui n'est pas selon Dieu dans le Nazaréen. Être tout entier pour le Seigneur Jésus, le Nazaréen. Dans le chapitre 7e, nous avons la pensée de pouvoir faciliter le mouvement de l'esprit, le mouvement du camp d'Israël en route, pour nous aussi, de faciliter par notre attitude, notre spiritualité, si vous voulez, de faciliter le mouvement de l'esprit parmi nous. C'est déjà une grande tâche aujourd'hui, mes chers amis. C'est pour cela que nous sommes invités à travers l'étude de cette parole, d'examiner nos propres cœurs. Est-ce que nous sommes là prêts pour faciliter le mouvement de l'esprit dans l'assemblée locale où nous nous trouvons? Le chapitre 8e nous montre la consécration des Lévites et leur service. Et dans le chapitre 9e, des ressources dans les temps anormales. Alors c'est très actuel pour aujourd'hui. Nous sommes, toute cette période d'aujourd'hui, ce sont des temps anormaux. Nous avons beaucoup besoin des ressources. Et heureusement, grâce à Dieu, il y a des ressources pour nous aujourd'hui aussi. Et puis, la provision de Dieu qui donne la nuée pour diriger, et aussi les trompettes. C'est avec cela que le chapitre 10e commence. Donc, les premiers 10 chapitres, préparation. Et puis, les chapitres 10 à 22 à peu près, le voyage. Ça a pris, au lieu que cela prendra donc 11 jours, comme il est décrit dans le début du Deutéronome, le peuple a pris 39 ans, 40 ans. Et nous verrons plus tard pourquoi. Dans cette section donc de 10 à 22, nous avons le voyage. Et là, le cœur de l'homme est bien exposé, ce qui est dans l'homme. Ce sont toutes les leçons qui sont actuelles pour nous aujourd'hui. Nous sommes aussi exposés aujourd'hui. Et le Seigneur nous montre aussi ce qui est dans notre intérieur. Le péché qui habite en nous, la chair qui est en nous. Nous trouvons donc dans le chapitre 10e que le peuple de Dieu est sous l'attaque de l'ennemi. Comme nous aussi, aujourd'hui, nous sommes sous l'attaque. Et ces trompettes sont là pour avertir, pour réveiller, pour que nous réalisions le danger, d'être prêts pour le combat. Chapitre 11e nous montre le mécontentement du peuple. Et cela a beaucoup découragé Moïse lui-même. Moïse a scruté dans le chapitre 11e. Mais pas seulement Moïse a scruté, mais aussi deux autres conducteurs. Il y a dans le chapitre 12 la médisance, c'est Marie et Aaron qui sont aussi scrutés. Et ça ne s'est pas arrêté simplement au conducteur, mais dans le chapitre 13e, le mépris, tout le peuple a scruté. Donc, il y a ici le mécontentement, la médisance et le mépris. Ce sont tous des péchés qui sont encore connus aujourd'hui, même parmi le peuple de Dieu aujourd'hui, parmi, malheureusement, les enfants de Dieu. Le chapitre 14e nous montre la rébellion du peuple. Il refuse d'entrer dans le pays que Dieu avait préparé à cause d'un compte rendu, un mauvais compte rendu des espions, les 10. Et alors là, à la fin de ce chapitre, l'Éternel a défendu que cette première génération entre dans le pays de Canaan. Ce seront leurs enfants qui entreront. Mais le chapitre 15e nous montre que Dieu n'abandonne pas son peuple. Et le début du chapitre commence « Quand vous serez entrés dans le pays ». Je trouve ça très, très, très touchant. En dépit de toutes leurs faiblesses, en dépit de toutes leurs faillites, Dieu les voit déjà dans le pays. Quelle miséricorde! Donc, chapitre 16e nous montre les vrais et les faux conducteurs. Corée, un faux conducteur. Il y en a ceux qui sont vrais. Aujourd'hui, on voit aussi les mêmes problèmes, mes chers amis. Si nous avons discernement. Et cela nous montre manifestement que nous avons besoin d'un sacrificateur. Dans le chapitre 17e, Dieu fait son choix et c'est Aaron qui sera donc le souverain sacrificateur par ces bâtons qui ont été mis dans les verges qui sont mis dans la présence du Seigneur. Et on a fini l'année passée avec le chapitre 18e, le service sacerdotal, porter l'iniquité du sanctuaire, porter ce fardeau devant le Seigneur, de notre faillite, de notre faiblesse, que même dans les choses saintes, la chair de l'homme est entrée, et la pensée de l'homme est entrée, et de le confesser devant le Seigneur. Et nous arrivons à notre chapitre 19e. Ce chapitre 19e nous parle de l'eau de purification, eau de séparation. Et la génisse rousse se trouve dans le verset 9, l'eau de séparation. C'est une purification. Séparation parce que celui qui, sur lequel est aspergé cette eau, il avait perdu la communion avec le sanctuaire, avec l'Éternel. Et il a besoin que cette communion soit restaurée. Il n'a pas question donc dans ce chapitre 19e d'un pécheur qui est perdu, qui trouve le salut. Non, le chapitre 19e pour nous nous parle des péchés des croyants. C'est bien l'apôtre Jean qui parle dans sa première épître, chapitre 2e, « Je vous écris ces choses, mes enfants, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, il y a un avocat auprès du Père. » Le péché d'un croyant, parce que malheureusement, c'est possible pour un enfant de Dieu que de tomber dans le péché. Ce n'est pas nécessaire, parce que Dieu ne demande pas quelque chose de nous pour lequel il ne nous donne pas aussi la grâce, la capacité. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Ce n'est donc pas une impossibilité. Mais à cause de notre faiblesse, à cause de notre humanité, à cause de notre manque de vigilance, on tombe. Mais si quelqu'un a péché, un croyant, il y a cette restauration de la communion. Voilà. C'est pour cela que nous voyons ici l'eau de séparation, pas le sang de purification, l'eau Et nous lisons cette pensée, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean, chapitre 19e. Et je le lis pour être bien clair. C'est l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 34. L'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Voilà les deux éléments qu'on trouve donc à travers la parole de Dieu. Le sang pour l'expiation et l'eau pour la purification. Voilà en grande ligne le sujet qui est devant nous. Mais pour aider mes jeunes amis qui étudient bien sûr la parole pour la nourriture de chaque jour, je vous donne un petit canevas de ce chapitre. On peut diviser ce chapitre en deux grandes sections, pour ainsi dire. Moi, je n'insiste pas que, voilà, il n'y a pas une autre pensée que d'étudier ce chapitre. C'est simplement de faciliter un petit peu le matériel qu'on trouve dans ce merveilleux chapitre. Donc, dans les 10 premiers versets, il y a comme thème la raison pour l'eau de la purification. La raison. Pourquoi ? Quel était le but donc ? Versets 1 à 10. Et puis, deuxième section, 11 à 22, l'application. L'application de cette eau de purification. Mais il faut maintenant vous imaginer. Vous voyez donc ce peuple de Dieu dans le désert. À peu près 2 millions d'âmes. Un grand peuple. Mais ils sont encore en voyage, en route pour le pays. Mais cette race d'Israël diminue chaque jour, cette première génération qui a été défendue d'entrer dans le pays de Canaan, ils meurent à travers le chemin. 40 ans. Imaginez-vous combien de morts chaque jour. Des milliers. Et alors, il y a des familles qui visitent leurs malades, qui entrent dans les tentes, et quelqu'un vient de mourir, ils sont tous souliers. Il y a des souillures partout. Il y a des morts partout. Chaque jour, des nouveaux tombeaux. Comment est-ce que c'est possible de se tenir encore pur? Le contact avec, dans l'Ancien Testament, le contact physique avec un corps mort souillé déjà. Remarquons, mes chers amis, il y a un autre enseignement dans le Nouveau Testament d'aujourd'hui. Mais voilà. Tous ces morts, ces corps morts qui sont là, partout, ces tombeaux. Et nous venons de dire dans le chapitre 5e qu'il fallait donc purifier le camp de tout ce qui souille. C'est presque impossible. Pour ainsi dire, il y avait des personnes qui... Il y avait peut-être plus de personnes qui étaient en dehors du camp, parce qu'il fallait sortir, que ceux qui restaient dans le camp. Quelle situation triste à cause de cette impureté. Et entre parenthèses, le mot impur répété 18 fois dans ce chapitre. Ça nous montre par contraste combien notre Dieu est saint et combien nous sommes sales, impurs par notre nature. Et que notre Dieu saint demande la sainteté. Mais la merveille, c'est que ce Dieu saint et pur accepte d'habiter au milieu de ce peuple. Il y a un verset extrêmement précieux qui se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 16e et verset 16. Lévitique 16:16. Et il fera propitiation pour le lieu saint, le purifiant des impuretés des fils d'Israël et de leurs transgressions selon tous leurs péchés. et il fera de même pour la tente d'assignation, qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Le sanctuaire dans lequel l'Éternel habitait, au milieu de son peuple, même au milieu de leur iniquité, quelle grâce! Pourquoi est-ce que le Seigneur est encore avec nous aujourd'hui? Parce que nous sommes si scripturaires? Parce que nous sommes tellement parfaits en obéissant la parole de Dieu? Quel orgueil! Le Seigneur est avec nous parce que c'est pure grâce. Par pure grâce, rien n'a changé. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Et cela doit nous humilier devant lui. Pas être orgueilleux que de penser que nous sommes si corrects quant à la doctrine. Il faut chercher, il faut rechercher d'être correct. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de faiblesses, aujourd'hui aussi. Le Seigneur a plein de bonté pour pardonner, si nous confessons, si nous confessons. Voilà donc, il fallait tenir le camp d'Israël pur. Mais Dieu, dans sa grâce, a trouvé un moyen qui peut donc être réalisé, qu'il reste au milieu de son peuple, et qu'ils peuvent donc s'approcher de lui et avoir communion avec lui. Lévitique 4 et 5 nous parle des sacrifices pour le péché, les délits, et comment s'approcher de l'Éternel. Mais notre chapitre 19e, nous montre comment la communion qui a été interrompue peut être restaurée. Est-ce que ça n'arrive pas dans nos vies, chers amis, des croyants, frères et sœurs, des jeunes et moins jeunes, que la communion est interrompue? Encore une fois de plus, l'apôtre Jean dit, mais si quelqu'un a péché, il y a un avocat auprès du Père. Il y a cet enseignement faux qui dit qu'un croyant peut perdre son salut. Ce n'est pas scripturaire du tout. Si par exemple un de mes enfants a été méchant, il fallait donc le discipliner, et il va dans sa chambre jusqu'à ce qu'il voit sa faute et qu'il vient confesser, « Papa, j'ai eu tort, je te confesse. » Mais ça peut passer peut-être un demi-jour. Mes enfants sont un peu têtus parfois. Et ils ne veulent pas tout de suite confesser qu'ils ont du tort. Parce que c'est naturel aussi chez nous. Eh bien, finalement, il vient. Mais alors, 16 heures qu'il n'est pas venu, est-ce qu'il n'a pas resté mon fils? Il reste toujours mon fils. Mais il n'y a pas de communion entre moi et lui, lui et moi. Tout en restant mon enfant, parce qu'il est né de moi, il n'avait pas communion avec moi, et moi je n'avais pas communion avec lui. C'est ainsi aussi dans notre vie spirituelle. On peut perdre la communion et la joie de la communion. Et c'est bien l'Esprit de Dieu qui convainc tout de suite, si on a permis quelque chose dans sa vie, on se rend compte. Oh, mes chers amis, ne vous laissez pas souffler dans l'oreille par le diable qui dit « Il n'y a pas de pardon pour tel ou tel péché. Maintenant, tu as dépassé les limites. » Non. Notre Dieu est prêt à pardonner. Mais souvent, nous ne sommes pas prêts à nous pardonner nous-mêmes. Et c'est en effet une sorte d'orgueil en me disant « Est-ce que c'est vrai que moi j'ai fait ça? Est-ce que moi j'ai pu faire ça ?» C'est une sorte d'orgueil que de ne pas se pardonner soi-même. Et on se culpabilise. Et on continue à se culpabiliser. Au lieu de confesser et de recevoir cette grâce immense du pardon. Et puis la communion est restaurée. Dieu a trouvé ce moyen en donnant cette provision de l'eau de purification, de l'eau de séparation. Séparation parce que cette âme, dans ce sens-là, a perdu la communion. Séparée, dans ce sens-là. Il doit être restauré. Est-ce qu'il y a ici des frères, des sœurs, des croyants? Et vous vous rendez compte que vous avez fait tort. Vous avez attristé le Seigneur. Vous êtes tombé dans le péché. Et peut-être vous pensez, il n'y a pas de pardon pour ça. Ne le crois pas. Venez. La parole nous dit, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier. Venez donc au pied du Seigneur Jésus. Et toujours venez au pied du Seigneur Jésus, lui confessant tout pour que notre communion soit maintenue. Ce ne sont pas toujours des gros péchés comme l'adultère ou fornication ou quoi. Il y a aussi des petites mensonges. Oh, exagérer, c'est aussi une forme de mentir. Ou d'être très critique, ou d'avoir blessé un frère ou une sœur. Le confesser. Le confesser. Pour que notre communion soit maintenue. Et si cette communion a été interrompue, ça peut être rétabli, restauré, parce qu'il y a cette provision. Christ est mort pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Quel bonheur. Quel bonheur. Voilà donc la raison pour cette eau de purification. Premièrement, parce que Dieu habite au milieu de son peuple. Dieu habite avec nous. L'Esprit Saint habite en nous. Et c'est lui qui nous convainc de tout ce qui n'est pas selon Dieu pour nous conduire tout de suite à juger cette chose dans notre vie. Une deuxième raison, exactement pour restaurer la communion. Quel était donc le moyen pour cette restauration? Alors là, nous avons cette description dans les 10 premiers versets. Il y a 5 choses devant moi. Il y a premièrement, verset 2, la génisse rousse. Ici, dans ce verset, cette génisse rousse est présentée, choisie par l'Éternel. Présentée. Deuxième chose, il y a la victime est égorgée, mise à mort. Troisième chose, il y a le sang aspergé, appliqué sur l'âme qui est souillée. Quatrièmement, la victime totalement consumée par le feu. C'est le jugement terrible sur cette victime. Et finalement, il a la cendre déposée dans un lieu saint et pur. Je répète, il y a la génisse rousse présentée. Il y a la victime égorgée. Il y a le sang aspergé. Il y a la victime totalement consumée. Et il y a la cendre déposée. Réfléchissons maintenant quelques minutes sur ces 5 choses devant nous. La génisse rousse. On ne lit pas d'une génisse rousse pour un sacrifice. C'est unique ici. Et la génisse rousse, naturellement, vous comprenez déjà, c'est un type du Seigneur Jésus-Christ. Et il est incomparable. Il ne peut pas être comparé avec un autre être humain, créature. Il est unique. Et c'est lui que nous voyons typiquement dans la génisse rousse. Présenté, regardons, sans tache, sans tare, aucun défaut corporel, qui n'ait point porté le joug. Toutes les perfections de la personne du Seigneur Jésus-Christ Quel merveilleux type du Seigneur Jésus. Oui, sans tard. Il a même interpellé, il a même demandé ses ennemis de lui convaincre du péché. Personne ne l'a pu. Parce qu'il n'a pas connu. Il n'a pas commis. Il ne va pas péché en lui. Il était saint. Sans tard. Aucun défaut. C'est le sang précieux, dit l'apôtre Pierre. En 1 Pierre, chapitre 1er. Le sang précieux. Pas, nous ne sommes pas rachetés par l'or, l'argent, mais par le sang précieux. De l'agneau préconnu avant la fondation du monde. Précieux. Sans terre, aucun défaut. Point porter le joug, même si le Seigneur dit, prenez mon joug sur vous. Ce n'était pas un joug de péché ou de l'esclavage, mais c'était, son joug était d'être obéissant à la pleine volonté de son Père. C'était sa joie de faire la volonté de son Père. Et il nous invite aussi de partager avec lui sur ce joug-là, que d'accepter la volonté de Dieu, chaque jour et chaque instant. Et ce joug n'est pas lourd du tout, puisque c'est lui qui la porte avec nous. Oui, le joug du péché, l'esclavage du péché n'était jamais sur lui. Et alors aussi l'agneau est donc conduit hors du camp. Il n'a pas offerte donc sur l'autel d'Aaron, remarquons. Parce que le Seigneur Jésus a été fait péché pour nous. Et la souillure, le péché ne pouvait pas rester dans le camp. Il fallait donc que le type soit conduit en dehors du camp à cause du fait que cette victime qui a brûlé, qui a subi le jugement d'un Dieu saint, hors du camp. Ainsi aussi, le Seigneur a été conduit hors de Jérusalem. Et c'est là, en dehors de Jérusalem, il a été fait péché pour moi et pour toi. Est-ce que cela ne touche pas notre cœur, mes chers amis? Lui a été fait péché pour nous, pour toi et pour moi. Il a porté toutes nos iniquités. Et là donc, nous lisons que la victime a été égorgée, tuée. Il a été mis à mort. Et c'est un type donc de la mort de Christ. Mais remarquons, ce n'est pas Aaron qui est mentionné du tout dans ce chapitre. C'était Eliezer. Eliezer, Aaron c'est un type de Christ, mais Eliezer c'est un type, comment le dire, de nous-mêmes, de la condition sacerdotale de nous. Et Eliezer n'a pas tué, n'a pas égorgé, c'est un autre qui l'a fait, lisons exactement, n'est-ce pas, dans le verset 3. Et vous la donnerez à Eliezer, le sacrificateur, et il la mènera hors du camp. Il est associé que cette victime a été conduite hors du camp, mais, et on l'égorgera devant lui. Ce n'est pas donc Eliezer qui l'a tué, égorgé, c'est un autre. Mais Eliezer est là, qui contemple, qui voit tout ce qui se passe avec cette jeunesse rousse.